VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du jeudi 1er juillet 2021. Jean-Roger Buant à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, 10 morts dans un nouveau massacre attribué aux ADF à Beni, en République démocratique du Congo. Au Gabon, 3 militaires ont été condamnés à 15 ans de prison pour un putsch manqué en 2019. Le président américain est à Miami en Floride aujourd'hui pour conforter les familles des victimes de l'effondrement d'un immeuble qui a fait au moins 18 morts et 140 disparus. Donald Rumsfeld, architecte de la guerre en Afghanistan et en Irak, est décédé hier à l'âge de 88 ans. Et ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord le journal. 10 personnes ont été tuées la nuit dernière à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, dans une attaque attribuée aux forces démocratiques alliées, les ADF affiliées au groupe État islamique. Les détails avec Marius Mounga.
Cette nuit, il y a eu attaque des ennemis ADF. On a perdu des dizaines de civils, a déclaré le lieutenant Anthony Molchai, porte-parole de l'armée dans la région. Un témoin dit avoir vu 10 corps à la mort de l'hôpital de Beni, dans la province du Nord Kivu. Des habitants sous le choc n'osaient pas faire de déclaration dans le quartier Wangoma, dans le sud-est de la ville, où l'attaque s'est produite. Des jeunes en colère ont défilé avec le corps d'une des victimes, scandant des slogans hostiles à l'armée et à l'état de siège décrété depuis le 6 mai par le président congolais Félix Tshisekedi. Cette décision en vigueur dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri a pour objectif de mettre un terme aux activités de groupes armés. Le week-end dernier, après une explosion des bombes artisanales, le maire de Beni avait décidé lundi la fermeture pendant 48 heures des écoles, marchés et lieux de culte par crainte de nouvelles attaques.
Un total de 600 instructeurs russes devant former les forces centrafricaines sont arrivés récemment à Bangui, a annoncé aujourd'hui la diplomatie russe, portant à 1135 le nombre d'experts militaires déployés en Centrafrique. Bangui avait annoncé en mai l'arrivée prévue de ces hommes, mais leur déploiement n'avait pas été officialisé. Il y a quelques jours, un rapport d'experts de l'ONU a accusé les instructeurs russes en Centrafrique d'avoir commis, avec l'armée centrafricaine, des violations du droit humanitaire international. Au Gabon, Kelly Ondo Obiang, l'auteur de la tentative de coup d'État avortée du 7 janvier 2019 et ses complices de la garde républicaine, sont condamnés à 15 ans de prison ferme. Le ministère public qui les poursuit exige d'eux le versement de 31 millions de francs CFA et leur radiation de l'armée. Les gendarmes qui avaient suivi le mouvement ont tous été acquittés. Le compte-rendu de ce procès marathon avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiang Nze.
Auditionné par les juges de la Cour spéciale criminelle de Libreville depuis plus d'une semaine sur la tentative de coup d'État avortée du 7 janvier 2019, qu'il avait conduit avec sept autres de ses co-accusés, tous militaires, le lieutenant Kelly Ondo Obiang est resté de marbre pendant cet interminable procès. Malgré l'accablant réquisitoire du ministère public qui le poursuit depuis 2 ans, Kelly Ondo reste convaincu qu'il n'avait rien à se reprocher. « Je ne regrette rien, si c'était à refaire, je le referais pour sauver la nation », avait-il martelé à la veille du verdict final intervenu jeudi matin après une longue nuit de plaidoirie qui le condamne ainsi que ses compagnons d'armes de la garde républicaine à 15 ans de prison ferme assortie d'une amende de 31 millions de francs CFA et une radiation de l'armée. 3 gendarmes qui avaient suivi le mouvement ont été acquittés à la demande du parquet. Sitôt après l'énoncé des condamnations requises contre les militaires, les avocats de la défense ont notifié au greffe du tribunal leur pouvoir en cassation. Ils disent avoir bon espoir de l'issue de cette procédure. Poursuivis pour vol, séquestration, association de malfaiteurs et atteinte à la sûreté de l'État, les 4 militaires vont encore passer 13 ans en prison pour y avoir déjà séjourné pendant 2 ans. Libreville, Ismaël Obionze pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, de nouvelles manifestations sont prévues dans tout le pays ce week-end à l'appel de l'opposition et de la société civile. Depuis l'attaque djihadiste la plus meurtrière commise dans la nuit du 4 au 5 juin contre le village de Solane et ayant fait de 132 à 160 morts selon les sources, les manifestations de colère se multiplient. Le président Roch Kabore a procédé hier à un remaniement et reprend lui-même le ministère de la Défense. L'ancien premier ministre ivoirien Guillaume Soro a fait appel de sa condamnation la semaine dernière par contumace à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État, a annoncé aujourd'hui un de ses avocats. Le 23 juin, la cour d'assises d'Abidjan avait condamné M. Soro à la perpétuité et 20 ans de prison, Ses principaux co-accusés, Souleymane Kamagaté, son ex-chef du protocole, Afoussi Bamba, son ancien ministre, et Touré Moussa, son ancien chef de la communication. Ce procès s'est tenu au mépris de la violation des règlements et de plusieurs décisions de la Cour, a estimé Maître Diallo, son avocat. En Afrique du Sud, la plus haute juridiction a blanchi aujourd'hui le président Cyril Ramaphosa au sujet d'une controverse sur le financement de sa campagne en 2017, estimant qu'il n'avait pas tenté de cacher au Parlement un don électoral. Dans un rapport publié en 2019, la médiatrice de la République, Bousissioué Mkwebane, chargée de la lutte contre la corruption, avait accusé M. Ramaphosa d'avoir délibérément induit en erreur l'Assemblée nationale dans sa réponse à une question d'un député d'opposition. La Haute Cour de justice avait annulé ce rapport l'année dernière et la Cour constitutionnelle a confirmé cette décision ce jeudi. L'Afrique du Sud, puissance régionale, a exhorté aujourd'hui les forces de sécurité de l'Eswatini à faire preuve d'une retenue totale et à préserver les vies humaines suite aux violentes manifestations pro-démocratie qui ont secoué le royaume. Enclavé en Afrique australe, l'Eswatini, connu aussi comme le Swaziland, a longtemps étouffé toute velléité de contestation, mais les revendications anti-monarchie ont connu une escalade ces dernières semaines. Les manifestants sont descendus dans la rue pour exiger des réformes politiques immédiates. L'Éthiopie a lancé aujourd'hui un appel aux forces du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, les appelant à adhérer au cessez-le-feu unilatéral déclaré le 28 juin par Addis Abeba. Les troupes TPLF ont repris lundi Mekele, capitale de la région du Tigré, marquant un tournant majeur après près de 8 mois de conflit. Addis Abeba a décrété dans la foulée un cessez-le-feu unilatéral.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Cour suprême des États-Unis a donné raison aujourd'hui à des élus républicains dans une décision qui pourrait peser sur l'accès au droit de vote des minorités dans le pays. Les 6 juges conservateurs de la Cour ont validé 2 lois électorales de l'Arizona qui, selon eux, sont justifiées par la nécessité de lutter contre la fraude électorale, même si elles limitent l'accès aux urnes des électeurs africains-américains, amérindiens et hispaniques. Leurs 3 confrères progressistes se sont opposés à un arrêt tragique qui abîme le Voting Rights Act, la loi emblématique de la lutte des droits civiques. Le président américain Joe Biden, accompagné de son épouse Jill, est arrivé en Floride aujourd'hui, une semaine après l'effondrement d'un immeuble à Surfside. Au programme, un point sur les opérations de secours, une longue rencontre pour apporter du réconfort à des familles en proie à la plus douloureuse incertitude. Les précisions avec Jacques Aristide.
Les opérations de secours ont été suspendues à l'aube en raison d'inquiétudes concernant la partie de l'immeuble encore debout après l'effondrement. Le dernier bilan date est de 18 personnes décédées et de 140 portées disparues. Le président Joe Biden entend réserver le plus clair de son temps à des rencontres avec les équipes de sauvetage, puis avec les proches des victimes ou des personnes manquant à l'appel. Le locataire de la Maison Blanche doit également rencontrer le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, mais Joe Biden veut avant tout apporter du réconfort lors de cette visite, a déclaré Karine Jean-Pierre à sa porte-parole à bord d'Air Force One. Le président veut aussi envoyer un message d'unité en faisant valoir que l'État fédéral et les autorités locales ont joint leurs forces face à la catastrophe, a-t-elle ajouté, sans préciser si Joe et Jill Biden se rendraient sur le lieu même du drame. La maire du comté de Miami-Dade, Daniela Levin-Cava, a indiqué que le déplacement de Joe Biden n'aurait aucun impact sur la recherche désespérée d'éventuels survivants qui reprendra dès que la sécurité des équipes de secours serait assurée.
Le directeur financier de la Trump Organization, Allen Weisselberg, s'est rendu ce matin chez le procureur de Manhattan pour être inculpé de possibles délits fiscaux. Il va plaider non coupable et son inculpation est déjà dénoncée comme politique par son entreprise. Les précisions de John Lindon.
L'inculpation d'Allen Weisselberg, proche de l'ancien président américain, était attendue depuis plusieurs jours dans le cadre d'une enquête ouverte il y a plus de 2 ans sur de possibles malversations au sein de cette entreprise qui gère plusieurs propriétés immobilières de Donald Trump. Le procureur démocrate Cyrus Vance, qui enquête sur de possibles malversations, n'a pour l'instant confirmé aucune de ces informations publiées par des quotidiens new-yorkais. La Trump Organization, dans un communiqué, affirme que le procureur de Manhattan lance des poursuites liées à des avantages accordés à un employé que ni le fisc ni aucun autre procureur ne songerait à lancer, selon un porte-parole de cette entreprise familiale. Ce n'est pas de la justice, c'est de la politique, a-t-il ajouté.
Voilà pour le journal. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec John Lindon.
La Banque mondiale a annoncé la nomination de Clara Anna de Souza au poste de directrice des opérations pour le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et le Niger. Clara Anna de Souza aura pour priorité de veiller à ce que les programmes financés par la Banque mondiale permettent d'atténuer les conséquences sociales et économiques de la pandémie de COVID-19 et créent des emplois et favorisent une croissance inclusive et durable dans ces pays du Sahel. La Banque mondiale, qui a également décidé d'augmenter de 8 milliards de dollars pour le porter à 20 milliards son plan d'aide en direction des pays en développement afin de faciliter leur accès aux vaccins. C'est ce qu'a annoncé son président David Malpass mercredi. L'institution, qui avait approuvé en octobre dernier l'octroi initial de 12 milliards de dollars, n'a pour l'heure dépensé que 4 milliards de dollars via des projets dans 51 pays, dont la plupart en Afrique. 2,2 milliards d'euros, c'est la somme mobilisée par le Cameroun. Après une opération de charme à Paris, plus de 200 investisseurs ont répondu présents à l'appel du pays, qui a eu recours à une émission obligatoire internationale pour refinancer l'Eurobond.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Le Daring Club Motomapembe de Kinshasa s'est emparé du 56e trophée de la Coupe du Congo au stade des Martyrs de Kinshasa au grand désarroi de Sangabalende. Une courte victoire 1-0 du DC Motomapembe a mis fin à cette finale arrêtée pendant 3 heures de temps suite à la violence des supporters des deux équipes de Kinshasa. Le reportage de notre correspondant Patrick Lupika.
Dans cette opposition fratricide, les joueurs du Daring Club Motomapembe évoluent à domicile sous une forte pression, ont été parcourus des sensations de bonheur en démarrant la partie pied au plancher. À la 21e minute de jeu, les jeunes prometteurs Kasereka Apianom est fauché dans la surface de réparation par le défenseur de Sangabalende au moins des équipes. L'arbitre central du match, Léon Kikoumi, ne siffle pas pénalty. 0 but partout et les scores à la pause. Au retour de vestiaire, Sangabalende sauvé de justesse par le gardien Kalambay qui sort les grands jeux d'une claquette, détourne en corner le coup de tête malicieux de Desi Mbombamutu sur une frappe lumineuse de l'ivoirien Junior Kone. Le scandale du match arrive à la 63e minute de jeu. Le match s'arrête suite aux échauffourées entre supporters de deux équipes qui lancent des projectiles. La police à son tour lance des gaz lacrymogènes pour disperser ces derniers. La partie va s'arrêter pendant près de 3 heures du temps. Le défenseur central camerounais de Sangabalende, Ndjala Dimitri Christian, est dégoûté.
Quand ces choses se passent comme ça, ça discrédite un peu.
L'arbitre central du match, Léon Kikoumi, prend la décision de reprendre la partie. Les Immaculés inscrivent l'unique but du match à la 90e minute de jeu grâce à Desi Mbombamutu sur un corner de Borel Tomanzoto. Authentique exploit réalisé par l'entraîneur congolais d'origine belge, Alain Landeux, arrivé au club le 2 mai 2021.
Je suis venu, on m'a demandé de remporter la coupe, j'ai rempli la mission.
Ce trophée permet au Daring Club Motomapembe de se qualifier pour la Coupe de la Confédération 2021-2022 en compagnie de l'SV Club qui a fini à la troisième marche du podium en Ligue nationale de football. Depuis Kinshasa, Patrick Lupika, VOA Afrique.
NBA, un Chris Paul virevoltant envoie Phoenix en finale pour la première fois depuis 1993. Bagassi Koura.
Oui, grâce notamment à un formidable Chris Paul, auteur de 41 points, les Phoenix Suns se sont qualifiés pour la troisième finale NBA de leur histoire. Ils se sont imposés 130-103 face aux Los Angeles Clippers dans cette victoire retentissante lors du match numéro 6 des finales de conférence Ouest. Phoenix peut remercier son meneur Chris Paul qui a réalisé 67% de réussite au tir. Pour sa première saison avec Phoenix, le vétéran de 36 ans, dont 16 dans la Ligue, va participer à sa première finale NBA après 1976, 1993, 2021 représentera la troisième apparition en finale pour les Suns qui ont perdu il y a 28 ans face aux Bulls d'un certain Michael Jordan. La franchise de l'Arizona a l'occasion d'accrocher un premier titre à son palmarès, mais doit pour cela venir à bout soit de Milwaukee, soit d'Atlanta, deux équipes actuellement à égalité, deux victoires partout dans leur série.
Merci, Bagassi.
Page de sport signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, le président Roch Kabore a limogé mercredi ses ministres de la Défense et de la Sécurité. Il a lui-même repris le portefeuille de la Défense. Un remaniement du gouvernement sous la contrainte populaire. L'opposition dit prendre acte, mais a maintenu ses manifestations prévues ce week-end. Les Burkinabés aussi donnent leur avis sur ce nouveau gouvernement de Ouagadougou. Les précisions de notre correspondant Lamine Traoré.
Le président Kabore a aussi nommé comme ministre délégué à la Défense le colonel-major Barthélémy Sempore, ancien attaché de défense du Burkina Faso à Washington jusqu'en 2019. Maxime Koné, qui était jusque-là ministre délégué à la coopération, a lui été nommé au poste stratégique de la sécurité. Kabore lui-même reprend la Défense, un poste qu'il détenait jusqu'en 2017. Les marches de l'opposition restent toujours maintenues pour le week-end prochain. Ce jeudi, ce nouveau gouvernement s'est réuni pour la première fois. Christophe Dabiré, Premier ministre.
Aujourd'hui, notre peuple a besoin d'aller de façon unie contre le terrorisme. Il ne faut pas qu'on se trompe d'ennemi. Quand le pays est en danger, il faut que l'on sache raison garder. L'opposition a le droit de marcher, mais nous disons tout simplement que, est-ce que réellement c'est le moment ?
L'opposition n'est pas satisfaite de ces changements. Eddy Kombeugo, chef de file de l'opposition.
Nous constatons qu'il a nommé un militaire, un colonel-major comme ministre délégué à la Défense. Non, mais je pense qu'il n'a pas encore compris. Ça fait 5 ans, sinon 6 ans que nous sommes en guerre. Nous n'attendons pas un ministre délégué à la Défense. Nous attendons un ministre d'État à la guerre. C'est ce qu'il faut pour que la conscience burkinabé, tout le monde comprenne que c'est très sérieux cette guerre. Par notre marche, nous voudrons que les Burkinabés comprennent sur les 45 provinces que nous sommes en guerre et que nous devons être solidaires.
Dans les rues de Ouagadougou, les populations réagissent de ce nouveau gouvernement.
Bon, c'est pas le gouvernement en tant que tel, il a changé des ministres. Alors on va voir ce que ça va donner. Ça pourra aller parce que déjà un militaire qui est ministre délégué.
Chacun se pose des questions sur comment on va faire pour arrêter, comment on va faire pour lutter. Ce nouveau changement-là va permettre peut-être aux gens de mieux s'organiser et de mieux repartir maintenant les différentes régions, les différentes zones où ils vont pouvoir intervenir.
Je ne crois pas vraiment en tout ça. C'est tous les ministres délégués, je ne vois pas vraiment leur intérêt. Bon, si le ministre est là, le ministre délégué, je ne vois pas vraiment même déjà à quoi lui c'est. Je n'accorde pas trop de crédit à ça. Néanmoins, j'espère qu'il y aura du mieux en fait.
Est-ce que ce remaniement aura un impact dans la gestion du pays? C'est à cette question que répond Pazien, analyste politique.
Ce remaniement ministériel aura au moins le mérite de désamorcer les cœurs au sein de l'armée et au sein des forces de défense et de sécurité. Les troupes étaient en train plus ou moins de remettre en cause le commandement au sommet. Donc,
un réaménagement du gouvernement qui intervient à quelques jours d'une manifestation de l'opposition qui entend dénoncer samedi et dimanche une conduite désastreuse de la question sécuritaire du pays. Ces manifestations restent toujours maintenues. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Le bureau électoral de New York a admis avoir compté par erreur plus de 100 000 bulletins supplémentaires lors de la primaire démocrate à New York. L'ancien policier Eric Adams, qui comptait jusqu'ici 9 points d'avance, est désormais au coude à coude avec Catherine Garcia, avec 51% contre 49% avant le dépouillement des votes par correspondance. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Yacouba Ouedraogo a posé la question à Mohamed Mbodge, professeur d'histoire à Manhattan College.
D'abord, on a éliminé les candidats qui sont arrivés, quelque chose comme 5e, 6e. Et puisque c'est un vote au choix, c'est-à-dire que l'électeur liste son choix 1, puis ensuite le choix 2, ensuite le choix 3, etc. Par exemple, si je vote pour quelqu'un comme candidat 1, mais il est éliminé, automatiquement, le candidat numéro 2 que j'ai sur mon bulletin va recevoir mon bulletin. Donc, c'est ça d'abord qui fait changer les choses. Catherine Garcia et Maya Wiley, qui n'est pas très loin d'ailleurs, parce que souvent les gens disent Garcia et Adams, mais actuellement Wiley est très près de Garcia. Donc, ce sont les trois qui semblent émerger. La deuxième chose qui est un peu plus marginale, mais en même temps un peu dangereuse, c'est que dans le décompte initial, c'est-à-dire que pour que les machines fonctionnent bien, on les nourrit avec des votes factices au départ pour vérifier qu'ils ont bien analysé les votes, qu'ils les ont bien calculés, etc. Donc il y avait quelque chose de 135 000 de ces votes. Ils n'ont pas enlevé ces votes qui étaient des votes essais, des votes tests dans le calcul final.
Justement, est-ce que le futur vainqueur se dessine quand même?
Adams est toujours devant. Les votes d'Adams sont un peu plus éparpillés et viennent de tous les quartiers, et en particulier le Bronx. Les votes pour Garcia, la très grosse majorité, viennent de Manhattan. Donc c'est un peu une candidate de Manhattan comparée à elle qui semble être un peu plus populaire ailleurs. Une forte propension de l'électorat était d'élire une femme maire de New York pour la première fois. Il y a de très fortes chances que l'une des deux femmes qui suivent Adams à quelques milliers de voix, Wiley ou Garcia puissent remporter. Et donc, ça peut leur bénéficier. L'une d'elles peut rattraper Eric Adams, mais ça va être sur le fil.
On sait que c'est une primaire démocrate pour l'élection municipale de New York, mais cette élection est très bien suivie. Qu'est-ce qui fait sa particularité?
Le maire de New York est certainement l'une des personnes les plus puissantes dans ce pays, puisque le maire de la ville la plus importante, une ville dont la surface financière et démographique est plus importante que beaucoup de pays au monde. Donc ce qui en fait un tout petit peu une sorte de personnage extrêmement important qui parle pour une communauté très nombreuses pour la communauté la plus riche ensemble dans ce pays.
Il s'agit d'une primaire démocrate. Pourquoi déjà on voit le vainqueur de cette primaire, par exemple, comme étant le futur maire de New York?
Parce que, évidemment, dans le système américain, en tout cas dans le système new-yorkais, il faut s'inscrire en parti pour pouvoir voter dans les élections primaires. Or, l'État de New York, et en particulier la ville de New York, je me limite à la ville de New York, il y a quelque chose comme 6 ou 7 fois plus de personnes qui se disent démocrates que de personnes qui se disent républicaines. Ce qui veut dire que, en fait, un démocrate qui passe les primaires est très certain d'être élu.
Mohamed Mboje, joint à New York.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ancien chef du Pentagone sous George W. Bush et Gerald Ford, Donald Rumsfeld, est mort à 88 ans. Cet homme, considéré comme un faucon dans le Parti républicain, a été l'architecte de la guerre d'Afghanistan et de l'invasion de l'Irak, un conflit dont l'enlisement lui a finalement coûté son poste. Qui était Donald Rumsfeld? La réponse d'Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines.
Donald Rumsfeld est une personnalité politique du Far West américain. Il était membre de la Chambre représentante, donc il était un député. Après, il était ministre de la Défense 2 fois. Une fois pour président Gerald Ford et une fois pour président Bush 43.
Et ce qu'on retient surtout de lui, c'est les guerres d'Afghanistan et d'Irak qu'il a aidé à déclencher.
Oui, oui, c'est vrai. Et je crois que sa réputation est tombée à cause de ça, parce que l'Irak, il a dit que nous devons faire la guerre contre l'Irak parce que le président Saddam Hussein, il a ramassé une grande quantité d'armes de guerre très lourdes. C'était des destructions massives. Il a dit il faut aller en Irak pour confisquer tout ça. Mais finalement, c'était un grand mensonge.
Oui, on n'a pas trouvé ces armes-là.
Après la guerre, on a envoyé des instructeurs, il n'y avait pas d'armes. Donc, et aussi pour l'Afghanistan, bien sûr, l'Al-Qaïda a déclenché le 11 septembre à partir d'Afghanistan, mais ce n'était pas nécessaire de faire 15 ans de guerre en Afghanistan à cause de ça. Il fallait chasser les Al-Qaïda, ce qu'ils ont fait. Mais ce n'était pas nécessaire de faire la guerre contre le Taliban, à mon avis.
Oui. On se rappelle aussi de cette image avec George Bush, avec le bateau pour dire que l'Irak avait été libéré.
Oui, c'est ça. C'est ça. Ah, oui, c'est un porte-avions,
oui.
Mais finalement, ce n'était pas libéré. C'était le commencement d'une grande guerre civile entre les sunnites et les chiites, avec l'ingérence de l'Iran. L'Irak est un grand désastre à cause de cette guerre.
Mais il a quand même laissé un grand impact sur la présence américaine dans le monde.
Oui, bien sûr, il a fait des bonnes choses en Europe, avec des alliés dans l'OTAN, oui. Point de vue de la guerre froide, il était très solide comme ministre.
Herman Cohen, interrogé par Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Parti communiste au pouvoir sans partage en Chine depuis 1949 marque ses 100 ans d'existence aujourd'hui. Lors de la cérémonie d'anniversaire à Pékin, le président Xi Jinping a vanté l'essor irréversible de son pays, jadis colonisé et désormais deuxième puissance mondiale. La Chine est toutefois très critiquée, notamment en matière des droits de l'homme à Hong Kong et dans la région des Ouïghours. Jacques Aristide nous en dit plus.
En ouverture d'un défilé aérien, la symbolique est claire. Pour son centenaire, le Parti communiste entend continuer à guider la Chine. L'événement est pour le PCC l'occasion d'afficher ses réalisations depuis sa fondation clandestine en juillet 1921 à Shanghai, dans l'ex-concession française. Dans la capitale, rares sont les voix qui s'élèvent pour contester le bilan du régime, lequel a accru sa répression de la dissidence sous Xi Jinping, arrivé fin 2012 à la tête du parti et donc du pays. Qing, une habitante de Pékin.
Le parti nous a fourni un bon développement national. L'ordre social s'améliore de plus en plus. L'économie a également toujours été en plein essor.
Devant une foule de jeunes et de membres du parti réunis sur la place Tiananmen, d'où son lointain prédécesseur Mao Zedong avait proclamé la République populaire en 1949, le président Xi Jinping a usé de forts accents patriotiques. Le temps où les Chinois pouvaient être foulés aux pieds, où ils souffraient et étaient opprimés, est à jamais révolu. Le peuple chinois s'est levé, dit-il.
Le Parti communiste chinois et le peuple chinois déclarent solennellement au monde entier, par leur lutte courageuse et tenace, que la nation chinoise a fait une grande avancée, se levant, gagnant en richesse et en force, avec la réalisation du grand rajeunissement de la nation chinoise, entrant dans un processus historique irréversible.
Et cette mise en garde de Xi Jinping, le peuple chinois ne permettra jamais à des forces étrangères de l'intimider, de l'opprimer ou de l'asservir. Quiconque s'y risquerait sera anéanti devant une grande muraille d'acier édifiée par 1,4 milliard de Chinois. Il a également parlé de la sortie de centaines de millions de personnes de l'extrême pauvreté. À l'international, entre Covid, traitement des Ouïghours et menaces contre Taïwan, l'image de la Chine s'est dégradée dans nombre de pays occidentaux, d'après une étude du centre de recherche américain Pew. D'importants effectifs policiers ont été déployés à Hong Kong ce jeudi afin de réprimer toute manifestation à l'occasion de cet anniversaire qui correspond aux 24 ans de la rétrocession de l'ex-colonie britannique à la Chine. Mais des Hongkongais vivant au Japon ont tenu à faire entendre leur voix.
Centième anniversaire pour les personnes persécutées par le PCC. Aujourd'hui n'est pas un jour de célébration, un jour qui nous rend curieux.
Toujours à l'occasion de cet anniversaire, quatre journaux nordiques ont publié une lettre ouverte à Xi Jinping pour dénoncer les atteintes à la liberté de la presse à Hong Kong. La semaine dernière, le principal organe pro-démocratie hongkongais, le quotidien Apple Daily, a été contraint de fermer après le gel de ses actifs.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.